Bonsoir à toutes et à tous. J-20 avant l'élection américaine, avec un président Trump en retard dans les sondages, mais qui donne tout pour rallier son camp, et notamment les catholiques conservateurs, avec l'audition au Sénat d'Amy Coney Barrett pour le poste de juge à la Cour suprême. Mais à 3 semaines des élections, c'est surtout un Donald Trump en mode Superman qui se présente devant les électeurs, puisque le président sortant pose devant son avion Air Force One et esquisse quelques pas de danse au son de YMCA de Village People. Il se présente également comme ayant vaincu la maladie et donc désormais immunisé face au Covid. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Trump dynamite la fin de campagne ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Negaroff. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Vous avez publié « Pudzi, le pianiste d'Hitler », c'est chez Gallimard. Nicole Bacharan, politologue, historienne spécialiste des États-Unis, auteur de « First Ladies », c'est aux éditions Perrin. Laurence Nardon, vous êtes responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et on peut retrouver votre podcast « Trump 2020 » sur toutes les plateformes. Et enfin, Anne Desine, vous êtes juriste, politologue, spécialiste des États-Unis, auteur des États-Unis et la démocratie, c'est aux éditions de l'Harmattan, et auteur de la Cour suprême, c'est chez Dalloz. On en reparlera dans cette émission. Tout d'abord, Thomas, merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Tout d'abord, Thomas Negaroff, quand je disais un Donald Trump en mode Superman, c'était pas une figure de style, et on a du mal à le croire, mais est-il vrai, puisque c'est ce qui se dit, que Donald Trump avait prévu de sortir de l'hôpital avec un T-shirt Superman? On parle là du président des États-Unis.
Oui, en tout cas, à en croire le New York Times, qui a eu des fuites, qui explique que c'est effectivement la tenue dans laquelle il voulait sortir. Mais je crois que plus que Superman, c'est Jésus-Christ, Donald Trump. Il s'est sacrifié pour les Américains, à l'écouter. Hein. Ouais. Il a attrapé le virus. Il est revenu, il y a la résurrection. Et il sauve l'humanité, puisque quand on l'écoute, il a attrapé le virus, ce qui lui a permis d'avoir accès à un traitement inédit qu'il va ensuite pouvoir apporter à tous les Américains. Et la métaphore religieuse, elle vient dans sa bouche lui-même, à lui-même, puisqu'il dit que c'est une bénédiction qu'il ait eu le Covid. Et maintenant, il va même jusqu'à la compassion christique, puisque hier, je l'ai entendu dire pour la première fois, un peu à la Clinton, « I feel your pain, je ressens votre douleur, because I felt your pain, parce que j'ai ressenti votre douleur. » Vous voyez, on est sur un truc, vous dites Superman, moi j'ai envie de dire quasiment le Christ. En tout cas, pour ses partisans, c'est un peu ça. Pour beaucoup, il est l'élu de Dieu, hein, pour les gens qui le suivent. Et il joue avec cette figure-là, avec un corps qui est revenu du diable Vauvert quasiment, et dont il offre quasiment la solution au peuple américain. On est vraiment sur un truc très particulier, d'un corps puissant, viril, on va en reparler, parce que l'Amérique doit l'être. Et donc, il y a une permanence d'un aller-retour entre son corps à lui, son corps biologique, et le corps de l'Amérique, ce qui lui permet aussi, au passage, de dire que le corps de Biden est un corps endormi. Donc, l'Amérique de Biden sera endormie.
Et Nicole Bacharan, alors c'est pas pour filer toujours la métaphore avec le Christ, mais c'est vrai qu'il a eu une rémission très rapide, en 3 jours. Ben, ça aussi, ça frappe. D'ailleurs, est-ce que ça questionne ce fait qu'il se soit remis de cette maladie qui peut être mortelle en aussi vite? Et en à peine 3 jours.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment remis en 3 jours, mais en tout cas, en 3 jours, il est sorti de l'hôpital. Et dans les jours qui ont suivi, il avait l'air quand même shooté, disons, pour parler un peu familièrement. Il avait l'air franchement dopé de stéroïdes, etc. Dans une euphorie, même pour lui, un peu suspecte. Mais là, c'est vrai qu'il repart en campagne et qu'il a l'air en pleine forme. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que le délai est suffisant pour dire qu'il s'en est bien sorti. Alors, pas moyen d'avoir le résultat du test, du fameux test, pour savoir s'il est négatif. Il dit « je ne suis plus contagieux, je suis immunisé ». Il est probable qu'il ne soit plus contagieux. Il est totalement incertain qu'il soit immunisé, puisqu'on ne sait pas, et c'est dommage, j'ai envie de dire, est-ce que les gens qui ont vraiment eu le virus sont réellement immunisés par la suite? C'est pas sûr. Il a eu accès à un traitement tout à fait nouveau, extrêmement cher, hein, 30 000 dollars, paraît-il, dont les anticorps de synthèse injectés directement qui ont produit un effet tout à fait positif. Mais c'est un traitement encore expérimental qui n'a pas été approuvé pour tout le monde, qui coûte très très cher et dont les doses ne sont pas très nombreuses à l'heure actuelle. Donc l'idée, Thomas a totalement raison, il dit qu'il va l'apporter gratuitement au peuple américain. Ça, par contre, c'est impossible à suivre, mais c'est vrai qu'il veut incarner l'énergie d'un homme qui, lui, n'a pas eu peur d'affronter la maladie, qui en est sorti vainqueur, qui est plus fort que jamais, avec cette dose un peu de chaleur humaine qui était assez inconnue jusqu'à présent. Je vous aime, je vous embrasse, etc. Mais j'ai quand même toujours envie de rappeler que les 215 000 Américains qui sont morts ne sont pas des faiblards, mollassons et sans courage, et que les gens qui sont très malades ne choisissent pas de l'être et ne sont pas forcément, là aussi, des gens faibles et sans courage.
Et Anne Desine, c'est vrai que ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'il en ferait un argument de campagne en disant « Moi, maintenant, je suis immunisé, je ne crains plus rien de la maladie. » Et au passage, il en profite pour tacler son concurrent. « Quand vous êtes président, vous ne pouvez pas rester enfermé. » C'est une façon de renvoyer Joe Biden à sa cave et son immense, comme il le disait, son immense masque.
Oui, ce qu'il y a de fantastique chez Trump, c'est qu'il nous surprend à chaque fois. On aurait pu penser qu'après avoir attrapé le Covid, il sorte et qu'il fasse preuve d'un peu d'empathie.
Comme Boris Johnson qui est ressorti.
Oui, voilà, lui, il avait un petit peu changé sa façon de voir les choses. Et non, il réussit à en faire un argument de campagne. Et effectivement, il dit « je vous aime », en particulier les publicités pour les seniors en Floride, c'est « je vous aime, vous êtes ma tranche d'âge favorite, vous aimez mes gens favoris, etc. » Tout ça, c'est un politicien, tout ça, c'est du calcul. Moi, je ne suis pas sûre qu'il ait une once d'empathie de plus.
Non, aucune. Oui, je suis d'accord avec vous, totalement.
Donc, non, mais c'est un showman fantastique, mais il est en train de tomber. Et c'est pour ça, comme il ne fonctionne, nous parlions avant que ça ne commence du livre de Mary Trump, sa nièce, comme il ne fonctionne... Charge. Oui, il est à charge, mais on comprend bien qu'il ne fonctionne que par l'extérieur, par cela. Donc, se remettre à faire la campagne, même s'il est très fatigué, ça lui permet de s'en sortir. C'est ça son ressort.
C'est vrai, tout à l'heure, Laurence Nardon, Nicole Bacharan nous décrivait un Donald Trump qui devient du coup très tactile. Il dit dans les meetings « Maintenant, je suis immunisé, je me sens puissant, je peux embrasser n'importe qui dans le public, les hommes et les jolies femmes, n'importe qui, je vous ferai un gros bisou. » Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir le choix entre deux présidents, un républicain, guerrier, tactile, offensif, ou bien alors un démocrate, plus intellectuel, plus prudent et plus renfermé.
Bah, c'est vrai que comme Trump a bâti toute son image depuis le début sur l'idée que c'était un homme fort, le fait qu'il ait attrapé cette maladie, a priori gage de faiblesse, il a été atteint, il est obligé de le retourner dans l'autre sens en faisant un argument de force parce qu'il a vaincu. Alors j'étais très intéressée, vraiment très fort, c'est très fort l'argument de Thomas Negaroff sur le Christ. Et c'est peut-être un peu français parce que nous on a l'habitude historiquement du corps du roi qui représente la France. Alors je sais pas si on peut véritablement le transférer aux États-Unis, parce que ce n'est pas exactement le même roi qui règne là-bas, c'est un président. Et en plus, je me dis que les conservateurs, enfin la droite chrétienne fondamentaliste ou évangélique, est-ce qu'elle serait séduite par ce parallèle ou est-ce qu'elle en serait choquée? Ce qui est évident, c'est qu'ils n'aiment pas vraiment Trump, eux. Les populistes aiment Trump, mais les conservateurs chrétiens voit bien que Trump n'est pas leur
homme. On va revenir d'ailleurs sur l'image que peut avoir Donald Trump auprès de l'électorat catholique, puisque c'est l'un des enjeux avec la nomination d'Amy Coney Barrett. Thomas Negaroff, vous vouliez ajouter une autre chose sur ce portrait
sur ce que Laurence évoquait sur la maladie, sur le rapport à la maladie. Hier, j'ai eu la chance de parler avec Marie Trump, la nièce, pour ses politiques de dimanche. Je fais une petite promo sur France 5.
Et ben voilà, c'est la maison.
On verra, c'est la maison, on verra Marie Trump.
Avoir rendez-vous France 5, c'est à 19h dimanche soir.
Voilà, à partir de 18h35. Et Marie Trump, ça sera vers 19h40. Et donc, je lui ai parlé hier enregistré. Et elle me racontait à quel point dans sa famille, donc la famille Trump, c'est la nièce de Donald Trump, la maladie a toujours été rejetée. Le père de Donald, être malade, c'est être faible. Donc il y a une espèce de rejet, de déni de la maladie, ce qui explique aussi pourquoi, vous vous souvenez, Bob Woodward, il savait, Donald Trump, que dès janvier, février, c'était dangereux, mais il y avait une sorte de déni. On refuse de croire, et tout le monde se disait... Il y a peut-être un peu de ça, parce que c'était mauvais pour l'économie. Mais il y avait aussi un rejet, il est germaphobe. Il déteste les microbes, Donald Trump. Il a un rapport à son corps assez particulier. Et Marie Trump explique que ça vient de son grand-père à elle, donc du père de Donald Trump, où il y a un rejet de la maladie. Et c'est intéressant de voir que ce type qui devient malade tout d'un coup, il veut en sortir très très vite. Et maintenant, c'est fini et il est plus jeune qu'avant. Il a gommé la maladie. Il n'y a pas d'effet. Et le seul effet, il est même positif.
Il reste donc 20 jours pour faire un choix et pourtant 10 millions d'Américains ont déjà commencé à voter, notamment via le vote par correspondance. Donald Trump et Joe Biden, eux, jettent leur dernière force dans la bataille. Le président américain, de plus en plus distancé par son rival dans les sondages, multiplie les meetings depuis sa sortie d'hôpital, comme vous allez le voir dans ce sujet de Mélanie Nunes et Aurélie Saner.
Air Force One reprend du service. Un tarmac en Floride pour des corps de meeting. Des milliers de supporters, souvent serrés, souvent sans masque, comme si le virus s'était volatilisé, et Donald Trump qui improvise quelques pas de danse. Un président galvanisé pour son retour sur scène.
C'est formidable d'être parmi vous en Floride pour faire mon retour officiel en campagne. J'ai traversé la maladie, maintenant les médecins disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant, je vais marcher dans ce public. Je vais aller embrasser les gars, les belles femmes, tout le monde. Je vous ferai un gros bisou baveux.
Rassuré, pour séduire les seniors dans cette campagne, électorat crucial pour gagner.
Nous allons prendre le traitement qu'ils m'ont donné et nous allons le distribuer dans les hôpitaux et tout le monde aura la même chose.
Un marathon de meeting pour Donald Trump, de la Floride à un autre état clé, la Pennsylvanie, 24 heures plus tard. Là encore, même décor, même foule et même discours.
Les vaccins arrivent bientôt. Les traitements et les soins.
Du côté démocrate, pas de grand meeting. Un petit comité des supporters dans des voitures et des klaxons en guise d'applaudissements.
Ensemble, nous allons renforcer la loi sur les soins médicaux. Vous êtes des Américains, vous pouvez décider de votre avenir. Pas Trump.
Joe Biden, qui lui aussi fait un appel du pied aux électeurs les plus âgés. Hier, devant une poignée d'entre eux, tous masqués.
Avec Donald Trump, c'est simple. Ce n'est pas une blague, vous êtes remplaçable. Vous êtes oubliable, vous n'êtes pratiquement personne. C'est ainsi qu'il voit les seniors.
Un discours qui séduit ici en Floride, état stratégique par excellence, où Joe Biden aurait déjà plus de 3 points d'avance par rapport à Donald Trump. En 2016 pourtant, la Floride avait voté républicain. Joe Biden conforte son avantage en tête dans les récents sondages avec 10 points de plus. Alors pour réduire cet écart, les militants trumpistes poursuivent une campagne de terrain, du porte-à-porte tous les jours, malgré le virus.
Les gens sont très réceptifs. Et pour l'élection présidentielle américaine, nous préférons sortir, avoir un ressenti sur le terrain, savoir quels sont les problèmes qui les préoccupent.
Les militants pro-Biden, eux, misent sur les spots publicitaires et les discussions en visioconférence.
C'est super d'être avec vous tous, même si c'est virtuellement ce soir, pour notre futur président Joe Biden.
On va continuer à se battre, une bataille avec la même intégrité.
Mais le sort de ces candidats est déjà scellé pour près de 10 millions d'Américains qui ont déjà voté par anticipation. Une procédure rendue possible dans 40 États sur 50 pour éviter la propagation du virus. Des électeurs qui peuvent voter dans des bureaux de vote ou par correspondance, ou même venir glisser leur bulletin dans une urne dédiée.
Je n'avais pas vraiment confiance dans la poste. Et je ne voulais pas prendre le risque que mon vote ne soit pas compté. J'ai reçu mon bulletin de vote hier, donc je suis venu ici tôt. J'ai dû attendre une heure ou deux. Mais je voulais le faire.
Une élection déterminante qui oppose deux visions de l'Amérique.
Je pense que c'est l'élection la plus importante de notre vie. La démocratie est en jeu, le changement climatique est en jeu.
Les deux candidats ont annulé leur prochain débat. Ils ont opté pour un duel télévisé à distance. Ils s'adresseront le même jour à la même heure à leurs partisans, mais sur deux chaînes concurrentes.
Thomas Negarov, c'est vrai qu'en voyant ce reportage, au début, on voyait bien quand même que Donald Trump a le sens de la mise en scène. Il renvoie, avec son avion, comme ça, à Force One, il renvoie une image de puissance qui frappe à 3 semaines des élections.
Et puis, il incarne et il met dans la rétine des gens qu'il est le président des États-Unis. Et c'est un pays quand même très loyaliste, les Américains. Et donc, ils voient le président arriver, c'est lui le président, c'est pas Joe Biden. C'est pour ça aussi que les présidents sont très fréquemment réélus. Moi, quand je vois ça, je repense à l'histoire américaine. Et ça me rappelle ce qu'on appelle le Whistle Stop Campaign. C'est Harry Truman qui, en 1948, très en retard dans les sondages, prend la décision d'aller voir tous les Américains. Alors, pas en avion, mais en train. Il y a des images assez connues de lui sur la plateforme à l'arrière, même parfois dans des villages. Ça lui permet d'aller partout, de voir des gens. Et vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire. Il est élu à la surprise générale, à tel point qu'il fait une photo avec le journal imprimé qui donnait la victoire de son adversaire, Dewey, le lendemain. C'est un peu ce qu'espère Donald Trump, parce que quand on voit les sondages, vous avez donné 10 points, mais certains donnent 12, 14 points, 16 points même jusqu'à CNN, 16 points de retard. Il est très en retard, et notamment, on l'a vu, dans l'électorat des personnes âgées, les plus de 65 ans, il est à 62-35, Biden face à Trump. C'est considérable. Honnêtement, là, à 3 semaines du vote, je sais qu'on va nous répéter, oui, mais en 2016, on était très, très loin d'avoir ce même écart dans les sondages.
Alors justement, question téléspectateur Anne Desine, le nombre déjà élevé de votes par correspondance, hein, 10 millions, hein, témoigne de la mobilisation des électeurs, mais sait-on pour quel candidat? Et pour revenir sur ce que disait Thomas, c'est vrai que Joe Biden est très en avance dans les sondages, mais alors on sait qu'aux États-Unis, ça ne veut rien dire, ces sondages nationaux, parce que toute élection se joue dans quelques États clés où on arrive, où c'est très difficile de faire des sondages. Est-ce que ça veut dire, sous question, que le suspense reste entier?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, quand on parle des 16 points d'écart sur CNN, ce sont les sondages nationaux et nous avons appris en 2016 qu'ils n'étaient pas très fiables, donc il faut faire État par État. Mais même quand on regarde État par État, en Floride, qui est très importante, dans l'Ohio, il y a un écart tel que même si Trump remonte, et c'est assez classique aussi en fin de campagne que le président en place regagne quelques points dans les sondages, Biden devrait passer. Alors, est-ce qu'on sait qui a voté ? L'idée, c'est qu'au début, les statistiques montraient que les démocrates voulaient voter par correspondance à 70%. Alors que, suivant le président qui exprime beaucoup de méfiance, les républicains sont, alors selon les États et selon les catégories, si j'ose dire, entre 25 et 40% à envisager de voter par correspondance. Donc, on sait d'ores et déjà que à partir du moment où on commencera à dépouiller ces bulletins par correspondance, et là aussi ça dépend selon les États, dans certains États on peut les ouvrir et les préparer à l'avance. Pardon, comme le président, je tousse. J'arrête. Dans d'autres, ils ne peuvent être ouverts que le jour du scrutin, donc le 3. Donc on sait que le soir, il y aura ouverture uniquement de ceux qui ont voté sur place, d'où l'importance du vote anticipé, qui représente aussi beaucoup de votes. Et c'est seulement au fur et à mesure, mais peut-être pendant la nuit, parce que les États démocrates ont recruté beaucoup de personnel dans les bureaux de vote pour justement dépouiller ces bulletins par correspondance assez rapidement pour que Donald Trump n'ait pas trop de temps dans la nuit du 3 D'accord. au 4 pour claironner qu'il a gagné en attendant et sans attendre les scrutins, les votes par correspondance.
Laurence Nardon, ça veut dire que quand même, ces votes par correspondance, par leur nombre, ils vont on va devoir ouvrir tous ces courriers. Ce qui veut dire qu'on ne saura pas le 4 au matin qui sera président des États-Unis. Et quand on voit ce Donald Trump, vous l'expliquiez, sa nièce le disait, qui n'aime absolument pas renvoyer l'image d'un loser, il va tout faire pour pré-annoncer sa victoire. Ça nous promet...
Il y a deux,
un mois de novembre compliqué.
Il y a deux raisons à un retard de l'annonce officielle du résultat. Il y a d'une part les lenteurs dans le dépouillement qui sont liées au fait que les enveloppes reçues sont plus longues à dépouiller que quelqu'un qui se présente et qui met son bulletin dans l'urne. Ça, Anne Desine vient d'en parler. Mais il y a aussi le risque d'avoir pas mal de recours dans les États, puisque comme on ne sait pas dans beaucoup d'États comment ça va se passer, c'est la première fois qu'un vote par correspondance à cette échelle est organisé dans tout le pays, enfin dans autant d'États et de manière aussi vaste, on peut craindre que certains groupes d'intérêts fassent des recours et interrompent donc la proclamation du résultat dans certains États ou dans certains comtés ou certaines villes. Et donc, ça ajoute une deuxième raison à un retard. Et ce qu'on craint effectivement, c'est que Donald Trump, sur la foi d'un demi-dépouillement, clame sa victoire et qu'il soit ensuite désavoué par les vrais résultats, peut-être au bout de 2-3 jours. Ça, c'est le scénario catastrophe, si vous voulez. Parce que est-ce que, dans ce cas-là, il concéderait sa défaite ? C'est le fameux coup de fil de concession que le perdant doit passer au gagnant lorsque les résultats résultats sont connus. S'il a déjà proclamé sa victoire 2-3 jours avant, est-ce qu'il aura l'honnêteté de le faire ?
Mais la première démocratie du monde peut vaciller sur cette histoire ? Elle est fragile ? Les institutions américaines sont fragiles à ce point ?
C'est toute la question. En juin dernier, il y a un groupe de juristes et de responsables intellectuels qui a mené justement des exercices, des simulations pour voir ce qui se passerait en cas de large victoire, victoire moyenne de l'un ou de l'autre, etc. Et le résultat était quand même assez inquiétant. Il disait que si jamais Biden gagnait d'une faible marge, donc qui n'est pas forcément la chose la plus impossible à ce stade, eh bien, ce serait sage de faire accompagner le président par des gens du service de sécurité le 20 janvier pour qu'il s'assure qu'il quitte la Maison Blanche. Donc, on verra.
Ah oui, à ce point.
Mais alors, il y a une toute petite bonne nouvelle, c'est que Facebook et Twitter ont enfin pris des mesures pour censurer. Les couvrir s'il annonce de façon prématurée sa victoire.
Je voulais juste qu'on vienne, alors au-delà des institutions, il reste 3 semaines. Donald Trump veut convaincre son camp, on sait bien qu'il s'adresse à son camp. Nicole Bacharan, quel est-il ce camp ? Est-ce qu'on peut le dire, pour résumer, est-ce que c'est abusif que de dire que c'est la classe ouvrière blanche et comment peut-il, et peut-elle être suffisante pour gagner une élection ?
C'est en tout cas la vraie question pour lui. Son électorat fidèle, c'est la classe ouvrière blanche et ce sont les évangéliques, donc ces protestants très pratiquants, très conservateurs, blancs, qui le suivent, qui le suivront jusqu'au bout. Et c'est vrai que quand on regarde les États que vous citiez, les États clés qui font l'élection, font qu'on peut avoir cette différence entre le vote des citoyens et le résultat final. En gros, il y a 14 États qui font partie de ces États qui peuvent basculer. Donald Trump, il n'est qu'en tête que dans 2 de ces États, le Texas et la Géorgie. Et il n'est pas en tête de beaucoup. Donc ça veut dire que c'est très difficile pour lui de gagner. Mais il lui faut notamment la Pennsylvanie. Il n'y aura pas de victoire pour lui sans la Pennsylvanie. Et en Pennsylvanie, c'est vrai que c'est là qu'on rencontre cette classe ouvrière blanche qui, en gros, vous dit, quand vous leur parlez, ben, écoutez, nous, on est là depuis plusieurs générations, on a travaillé dans l'industrie lourde et puis plus dans des industries parfois plus modernes. Et qu'est-ce qu'on nous reproche ? On travaille, on va à l'église le dimanche, on paye nos factures, on va à la chasse et à la pêche, et on vient nous dire, ben, vous êtes des mauvais Américains, vous polluez, vous détruisez l'environnement, vous êtes racistes. Et avec Trump, on se sent bien, et avec les démocrates, on nous fait tout le temps la leçon. Et en fait, la leçon...
On nous prend de haut avec les démocrates.
Voilà, on nous regarde de haut, et on nous fait la leçon, comme si on n'était pas des gens bien, en quelque sorte. Ce que Donald Trump, évidemment, ne fait pas. Et cette classe ouvrière blanche, je reste en Pennsylvanie, par exemple, les gens avaient voté Obama, c'est des démocrates depuis toujours, ces gens-là, et puis ils ont voté Trump. Et cette année, ce que l'on remarque, c'est que dans les inscriptions sur les listes électorales, c'est-à-dire ces inscriptions, souvent on déclare « je suis démocrate, je suis républicain », ça ne vous engage pas sur votre vote, mais vous pouvez donner votre affiliation politique. Eh bien, il y a beaucoup plus de républicains qui se sont inscrits, donc des gens nouveaux qui n'avaient pas voté en 2016 et qui vont voter Trump cette année.
Aux États-Unis, non, mais je reviens là-dessus, on peut donner son affiliation politique.
On n'est pas obligé.
Au moment de voter, quand on s'inscrit sur une liste électorale.
Et on peut voter le contraire, hein, le jour venu, mais ça suffit même pour que vous soyez compté, affilié à tel ou tel parti. Donc c'est vrai que quand on voit les meetings de Donald Trump, c'est toute cette imagerie, c'est un homme de télé, il n'y a aucun doute là-dessus, ça parle fort à son camp. Mais son vrai camp, c'est 42%. Donc le pari, c'est qu'il y a ces électeurs qui se sentent méprisés par les démocrates, qui n'ont pas voté en 2016, qui ne sont peut-être pas comptés dans les sondages et qui vont sortir au dernier moment.
Thomas Negaroff, c'est l'historienne Sylvie Laurent qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Pauvre petit blanc ». Et elle développe la théorie suivante. Elle dit « cette classe ouvrière blanche qui devient minoritaire, elle se crispe parce qu'elle a l'impression de perdre ». Ce patrimoine qui est le fait d'être blanc est un patrimoine important dans un pays où on est souvent renvoyé à sa couleur de peau.
Oui, ça renvoie. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on dit toujours que c'est les pauvres qui ont voté pour Trump. En fait, elle dit non, les pauvres, c'est les minorités. Et ils n'ont pas voté pour Trump. C'est le petit peuple blanc, ce qu'elle appelle le petit peuple blanc, qui a voté pour elle. Et elle renvoie effectivement à la notion de patrimoine. Elle dit en fait un truc que Du Bois, qui est l'un des pères fondateurs, l'un des premiers penseurs noirs de la cause des droits civiques au début du XXe siècle, expliquait que dans cette Amérique-là, finalement, si les Noirs ont des avantages, si les Noirs sont à l'égalité, disons, légale avec les Blancs, ben les petits Blancs seront tout en bas de l'échelle. Il ne leur restera plus rien. Et donc, ce que Trump a bien saisi, et c'est là où la démocratie et la démographie se répondent, c'est que depuis 2016, vous avez plus d'un bébé sur deux qui naît aux États-Unis qui n'est pas blanc, qu'il y a là une poussée démographique qui fait que ces gens-là, consciemment ou inconsciemment, ont certainement une inquiétude de devenir minoritaires dans leur pays. Et ça, ça renvoie aussi à ce qu'on évoquait il y a un instant sur le early voting, sur les votes anticipés. Je ne sais pas si vous avez vu en Géorgie ce qui s'est passé hier. En Géorgie, vous avez dans les quartiers noirs des gens qui ont mis 11 heures pour pouvoir voter. 11 heures. Dans les quartiers blancs, 15 minutes. L'explication, c'est que depuis 2015, la Cour suprême est revenue sur la grande loi de 1965 qui permettait aux noirs de voter autant que les blancs. Toutes les entraves avaient sauté. En 2015, la Cour suprême a dit « il n'y a plus besoin, donc on revient en arrière ». C'était pour les 50 ans de la loi.
Parce que Donald Trump a tweeté là-dessus.
Voilà. Et depuis, on voit des bureaux de vote qui ferment. On voit une entrave au vote. Et ce qui est intéressant, en quoi ça c'est lié avec ce que je viens de dire il y a un instant, c'est qu'on sent bien que dans ce pays, il y a des gens qui sont inquiets de la démocratie, qui ont peur de la démocratie. Et ça, Anne Desine a écrit dessus, ça raconte l'histoire américaine qui est bien plus républicaine que démocratique. Depuis le début, les Américains et les pères fondateurs ont la trouille de la démocratie. C'est pour ça qu'on a un système avec des grands électeurs aussi complexes. La majorité fait peur. Et Mike Lee, sénateur de l'Utah, a dit il y a deux jours, pas il y a 100 ans, il y a deux jours, la démocratie, c'est atroce si c'est la tyrannie de la majorité. Et ces gens-là, et ça renvoie au petit peuple blanc, ont une inquiétude parce qu'il y a une poussée démographique qui fait qu'un jour, dans pas longtemps, ils seront minoritaires.
Et Laurence Nardon, ce découpage électoral par État, il permet aux ruraux, aux États ruraux, d'être surreprésentés et de garder le contrôle du pays, finalement, d'une certaine façon.
Oui, mais il y a effectivement des livres et des livres de droit et d'histoire qui ont été écrits là-dessus. Et ce que les partisans de ce système ont dit, c'est que c'est le prix à payer pour un système fédéral, en réalité. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le collège électoral, donc ce système de vote indirect, les citoyens votent pour des grands électeurs qui se réunissent le 14 décembre pour élire le président proprement dit, ces grands électeurs, ils sont distribués par État au même titre que le nombre des représentants à la Chambre et des sénateurs. Or, les sénateurs, il y en a deux par État, quelle que soit la population. Vous avez 39 millions de Californiens, deux sénateurs. Vous avez 600 000 Wyomingais, habitants du Wyoming, deux sénateurs. C'est injuste, mais c'est parce que chaque État vaut un. Enfin, chaque État vaut la même chose que les autres.
Le théorème de Clinton, comme quoi une élection américaine joue sur l'économie, il est abandonné, enterré, ça, voilà quelque chose dont Trump a eu la peau.
Non, je ne pense pas. Non, je pense que, en fait, l'économie et l'identité, dont on parle à l'instant, c'est la meilleure chance de Trump. Parce que sur tous les critères, toutes les questions que l'on pose aux électeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la santé, le climat, l'éducation, etc., Trump est derrière Biden pour tout, sauf sur l'économie. Sur l'économie, Trump a une petite avance où les gens disent « c'est plutôt à lui que je ferai confiance pour rebâtir l'économie post-Covid » plutôt qu'à Joe Biden. Donc l'économie, elle reste centrale, y compris dans les préoccupations, évidemment, des ouvriers blancs et des employés de toute couleur de peau. Donc il a, si vous voulez, il a un avantage sur la question de l'identité pour les blancs, et on peut revenir, si vous voulez, sur ce que ça peut représenter. C'est un peu plus, c'est un peu compliqué comme question. Et également
pour l'économie.
Sur l'économie.
Il a dit, dans ses meetings, je le cite, hein, il promet que la reprise économique au troisième trimestre battrait tous les records s'il gagne en novembre.
Oui, je voudrais juste rajouter un mot sur ce que Thomas et Laurence également disaient sur la question de la tyrannie de la majorité. Parce que c'est vrai que c'est central dans l'évolution des institutions américaines et cette trouille profonde que vous citiez. Et en même temps, je trouve que c'est légitime d'avoir peur de la tyrannie de la majorité. Si la majorité est solide, elle représente certes une majorité des électeurs, ouais, une majorité des citoyens, mais ça ne devrait pas annihiler les droits, les opinions, la défense des autres.
C'est la façon dont fonctionne l'Europe. C'est la démocratie libérale.
L'Europe fonctionne de cette façon.
Et d'où la nécessité d'établir ces fameux poids et contrepoids dont on a l'impression qu'ils ne marchent plus.
Anne Desine, c'est votre grande spécialité, ça, d'ailleurs.
Oui, justement, pour établir un lien avec le troisième sujet, ce qui se joue dans les auditions à la Cour suprême, c'est exactement ça, parce que la décision dont Thomas parlait, Shelby, décision de la Cour suprême, qui a détruit la loi qui impliquait que les États du Sud, qui toujours faisaient de la discrimination anti-noire, devaient soumettre leur modification du code électoral pour autorisation préalable à Washington au département de la justice. Ça tombe. Et c'est pour cela que depuis 2013, on a cette multiplication de réformes. On veut une carte d'identité, on supprime les bureaux de vote comme par hasard dans les quartiers noirs.
Vous voulez dire qu'on organise la difficulté à voter pour les quartiers noirs.
Voilà, et cette nouvelle juge, elle est à 100% dans cette voie, c'est-à-dire qu'il y aura une continuation du démantèlement du droit électoral et donc de plus en plus de difficultés pour la majorité et les démocrates d'obtenir une majorité.
Voilà, et pour aller dans votre sens, c'est Joe Biden qui dit « En ce moment, à la Maison-Blanche, des personnes travaillent pour empêcher des gens de voter et surtout des gens de couleur. » Eh bien justement, ça nous emmène au deuxième sujet. Nous sommes à 3 semaines des élections et le vote des minorités apparaît, on l'a dit, comme un des points clés de ce scrutin. Alors traditionnellement favorable aux démocrates, ils avaient pourtant fait défaut à Hillary Clinton en 2016 et avaient permis à Donald Trump de l'emporter largement. Les deux candidats l'ont bien compris et ils multiplient aujourd'hui les appels du pied aux communautés afro-américaines et hispaniques. Voyez ce sujet de Pierre Millet et Christophe Roquet.
L'un veut charmer la communauté afro-américaine à grands coups de clips de campagne. En 3 ans, nous avons atteint le taux de chômage le plus faible de l'histoire chez les Noirs. L'autre veut plaire aux Hispaniques en jouant sur la corde musicale.
J'ai un truc à vous montrer. Regardez.
Preuve qu'aujourd'hui, le vote des minorités ethniques latino et afro-américaines est au centre de la course à la Maison-Blanche. Une manne électorale qui constitue presque un tiers de la population américaine et qu'il faut aller chercher lors de meetings où chaque candidat critique l'attitude de l'autre vis-à-vis des minorités.
Joe Biden a passé 47 ans à brader la communauté hispanique, vendant vos jobs à la Chine, augmentant vos impôts et différentes contraintes. Je sais pas, ça me semble pas top.
Il y a près de 20% de la population des États-Unis et 24% des jeunes de l'école primaire au lycée qui sont latinos. Il est ridicule que cette administration ait adopté ce genre d'attitude alors qu'ils sont notre futur.
Traditionnellement démocrate, le vote des minorités ne leur est pourtant pas garanti. Retour en arrière. Il y a 4 ans, le Parti démocrate perdait pour la toute première fois en 30 ans le Michigan. 12 000 voix seulement permettaient alors à Donald Trump de l'emporter, car beaucoup d'Afro-Américains ne sont tout simplement pas allés voter. Il y a quelques mois, nous avions pu interviewer Lavora Barnes, une proche de Barack Obama récemment nommée à la tête du Parti démocrate du Michigan. Elle estime que son camp avait alors pris pour acquis le vote des minorités.
Nous n'avons pas donné aux communautés afro-américaines une raison d'aller voter. On n'a pas bien communiqué auprès d'eux sur l'importance de leur vote, sur la démarche d'aller voter en 2016. Le truc, c'est que les échanges qu'on a aujourd'hui sont différents parce qu'il y a Donald Trump. Et parce que Trump propage la haine. Trump est un raciste. Et maintenant, voilà ce qu'on dit. C'est le moment. C'est le moment de se relever et de reconquérir son pays.
D'autant plus que le mandat de Donald Trump aura été celui des tensions raciales. Rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville en 2017, fusillade visant des latinos au Texas en 2019, puis la mort de George Floyd, tué par des policiers il y a quelques mois. Pourtant, remporter les votes hispaniques et afro-américains n'est toujours pas garanti côté démocrate. Car se fait entendre une musique, récurrente à l'approche d'élections, et évoquée il y a quelques jours par la colistière de Joe Biden, Kamala Harris.
Pourquoi pensez-vous qu'ils essaient de rendre le vote plus compliqué pour les personnes noires? La réponse est simple. Ils savent que quand on vote, les choses changent. Ils savent que quand on vote, on est puissant.
Et si les États conservateurs faisaient tout pour mettre des bâtons dans les roues des minorités, pour les empêcher de voter le jour de l'élection? Barack Obama soutient cette thèse et encourage les Américains à faire valoir leur vote le plus tôt possible.
Aujourd'hui, la Maison-Blanche et son administration font tout pour empêcher les gens de voter, surtout les communautés de couleur. Allez sur jevoterai.com, entrez-y votre État et prévoyez de voter le plus tôt possible. Et dites à vos amis et votre famille de faire pareil.
Mais Donald Trump dispose tout de même du soutien d'une partie des minorités. Certains Afro-Américains l'ont notamment manifesté en défilant lors des émeutes liées à la mort de George Floyd. Et un récent sondage lui accorde le soutien d'au moins 26% des Latino-Américains.
Thomas Negarov, ce que vient de dire Barack Obama, c'est dans la droite ligne de ce que vous nous avez expliqué. C'est-à-dire qu'on essaye d'organiser le vote pour rendre difficile le vote dans les quartiers noirs.
Et c'est surtout dans la droite ligne de ce qu'il a fait lui, parce que le vote anticipé a commencé à exploser aux États-Unis en 2008. C'était la stratégie de Barack Obama. On est passé de 15-20% du vote anticipé à 25-30% à ce moment-là. Et maintenant, on est à 40% et peut-être même davantage encore cette année, parce qu'il avait compris, Barack Obama, je le montre du doigt, que c'était le vote anticipé qui permettrait effectivement d'aller permettre à des gens qui votent peu d'aller voter, parce qu'il y a l'idée, qui est une idée juste, hein, que les sondeurs ont bien montré, que les gens qui votent habituellement peu, si on leur dit qu'il faut voter un mardi en pleine semaine, entre telle heure et faire la queue, ils ne vont pas y aller. Donc plus on rend facile l'accès au vote, plus ils vont y aller. Mais ça veut aussi dire lutter contre toutes les entraves. Barack Obama s'est mobilisé, son épouse s'est mobilisée. LeBron James, le super joueur de basket qui vient de gagner le championnat encore avec Los Angeles, les Lakers, s'est mobilisé avec un mouvement qui s'appelle Vote, qui fait que dès qu'il y a une entrave au vote, il faut le signaler pour indiquer qu'il y a un problème à cet endroit-là. C'est un vrai enjeu et c'est quand même étonnant. Vous évoquiez la grande démocratie. On est quand même au cœur du fonctionnement de la démocratie qui est le vote. Et on voit que le vote n'est pas absolument garanti. Mais vous savez, Donald Trump l'avait dit avec une incroyable honnêteté. Il avait dit, si le vote par correspondance se multiplie largement, il n'y aura plus jamais de républicains élus. Donc il avait lui-même parfaitement compris que le vote par correspondance était dangereux pour lui. Et vous savez que le vote par correspondance, il est tellement fort et anticipé, il est tellement fort cette année, que certains pensent qu'on aura à peu près 65% de participation à la présidentielle. Ça veut dire qu'on reviendrait à un chiffre qu'on n'a pas connu depuis 1908. Pas 2008, 1908. C'est vous dire à quel point la participation va être exceptionnelle cette année.
Jamais autant les Américains n'auront voté depuis 1908.
Oui, 65% de participation.
Est-ce qui les fait voter, c'est Donald Trump.
Qu'on soit pour ou qu'on soit contre.
Voilà, exactement. C'est vraiment lui. Oui, voilà. C'est vraiment lui le choix, le référendum. On l'a vu dans le reportage. Il y a des gens qui vraiment veulent chasser Donald Trump. Et il y en a qui l'adorent et qui veulent garder Donald Trump. Ils ne votent pas pour ou contre Biden, en gros.
D'accord.
Voilà, Biden, on l'aime bien, c'est un brave homme. Mais on sent qu'il est fatigué et il n'y a pas d'enthousiasme dans le camp Biden. Mais il y a la peur de Trump. C'est vraiment l'enjeu.
Question téléspectateur, Laurence Nardon. Les Noirs et les Latinos votent traditionnellement démocrates. Est-ce toujours exact?
C'est toujours exact pour les Noirs, même si dans la campagne actuelle, le camp Trump essaye de flirter, enfin essaye de séduire principalement les hommes noirs, en axant le message sur un président fort et viril, un message un peu de macho qui... selon des stéréotypes que les républicains utilisent à fond, est censé séduire les hommes noirs particulièrement. Pour les latinos, c'est plus compliqué.
Vous avez vu d'ailleurs, j'en profite, qu'il y a même eu de Twitter à retirer de faux tweets disant « Oui, je suis noir et je vote pour Trump, les gauchos ne vont pas aimer, mais je m'en fous. » Et en fait, on s'est rendu compte que c'était de faux comptes.
C'est la politique en 2020 aux États-Unis.
On ne sait pas qui est derrière ces faux tweets.
Il y avait quelques traces vers la Russie, mais ce n'est pas avéré. Bon.
Mais en ce qui concerne les latinos, c'est plus compliqué.
Alors, ils votent noirs, donc ils votent démocrates à 90%.
Oui, absolument. Noirs, voilà. Aujourd'hui, 89% des noirs voteront Biden et 8% voteront Trump.
D'accord. Bon.
Donc il travaille l'électorat masculin noir, mais je ne suis pas sûre que ça va très bien marcher pour ce camp républicain. Et donc, en ce qui concerne les latinos, c'est plus compliqué, parce que c'est beaucoup moins univoque. D'abord, les latinos votent beaucoup moins que les noirs, dont la mobilisation est très forte. Les latinos, ils ont souvent dans leur famille des gens qui ne sont pas américains, et du coup, madame n'a pas la nationalité, vote pas, monsieur ne va pas aller voter non plus. Donc la participation est moins forte, d'une part. Et d'autre part, il y a des groupes différents parmi les latinos. Les Cubains, ils sont très, très républicains. Ils votent pas.
Très anti-Castro, et exactement. Donc très républicains.
Donc ils sont très méfiants vis-à-vis d'un Biden.
Oui.
Il y a aussi ce qu'on appelle les Asiatiques américains, qui viennent à la fois d'Asie, d'Extrême-Orient, mais aussi du sous-continent indien, et qui votent traditionnellement démocrate, à peu près à 2/3. Mais là aussi, il y a effectivement des sous-groupes. Les Américains d'origine vietnamienne, qui généralement sont des boat people, des enfants des boat people, extrêmement anticommunistes, et on peut le comprendre, votent plutôt républicains. Chez les latinos, il y a aussi la question religieuse, et un aspect conservateur religieux qui peut les pousser à voter plutôt républicain, plutôt Trump. Mais je dois dire que moi, je suis assez stupéfaite en ce moment de voir que se répandent aux États-Unis, sur les réseaux sociaux et même en France parmi les représentants de Donald Trump, de faux sondages, des sondages radicalement faux. On vous affirme en vous regardant droit dans les yeux qu'Hillary Clinton, par exemple, a eu 70% du vote noir et que Joe Biden est crédité de moins. Or non, Hillary Clinton a eu 90% du vote noir et Joe Biden est lui aussi crédité d'environ 90% du vote noir. Mais le faux sondage, comme le faux tweet et le faux post sur les réseaux sociaux, est fait par des gens qui n'ont aucun scrupule à vous dire une pure contre-vérité.
Thomas Negarf, on est toujours un peu surpris et gêné en tant que Français de voir comment ces Américains sont renvoyés à leur couleur de peau, etc. Non, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je crois qu'on casse toujours. Est-ce que vous êtes afro-américain, latino, etc. Comment se fait-il qu'au fil des métissages, il n'y ait pas la case américaine, point barre, quoi.
Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de métissage. En tout cas, pas suffisamment aujourd'hui encore. Il y a la case métisse, on peut, mais mixed race, quoi. Ça s'appelle comme ça aux États-Unis. Mixed race, mais c'est encore très minoritaire. Non, la réalité, c'est que la question raciale, elle est fondamentale parce qu'elle est aussi à la base de droits spécifiques pour les minorités. Donc, en fait, on est sur un modèle complètement différent du nôtre, donc faut arrêter. Mais c'est vrai que je comprends que des gens qui regardent la télé se disent, oh là là, ils parlent de race en permanence. En plus, même le terme de race en français, on l'utilise très peu. Oui. Les Américains l'utilisent en permanence. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que quand on regarde les motivations des électeurs en fonction de leur race ou de leur origine ethnique, le premier item, c'est jamais la question raciale. Jamais. C'est l'économie, c'est la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on exagère. Et les politiques souvent se trompe et exagère ces questions-là. C'est la raison pour laquelle Trump considère, lui, que des Noirs peuvent voter pour lui sur la simple question économique. Et il n'a pas tort. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de Latinos... Regardez l'électorat juif américain. L'électorat juif américain, il ne vote pas pour Trump parce qu'il est pro-Israël. Pas du tout. Il vote démocrate. Parce que pour eux, la question, les questions, et heureusement, en tant qu'Américain, la question d'Israël, elle n'est pas centrale pour eux. Il y a des questions de progressisme, la question de l'avortement, la question de l'économie, la question de la sécurité, plein d'autres questions. Donc n'exagérons pas le prisme racial qui est important, mais qui ne détermine pas l'ensemble des choix des individus, et heureusement.
Mais il y a un aspect qui va être important, c'est l'attitude et la politique anti-immigration de Trump. Pour les Hispaniques, par exemple, tous ceux qui, dans une famille, ont été affectés par les mesures, le fait qu'il s'est battu contre le fameux décret DACA, le décret d'Obama qui visait à suspendre les expulsions pour les enfants nés aux États-Unis ou pour les enfants arrivés aux États-Unis de façon illicite, mais qui depuis avaient fait des études et qui s'étaient intégrés, qui payaient des impôts. Là, je lisais quelque chose dans l'Arizona, il y a vraiment une prise de conscience et une mobilisation de ces jeunes-là, et pour justement faire inscrire sur les listes électorales et faire voter les latinos. Mais plus globalement, c'est vrai, tout ce qu'on a dit, c'est que les noirs votent à très forte proportion pour les démocrates, même les latinos, mais ça va être la question de vont-ils se déranger? Et c'est parce que pourquoi Hillary Clinton a perdu? Parce que par rapport au taux de participation d'Obama, elle avait perdu plusieurs parts. Et ces tweets mensongers, ils visent justement ceux qui disent Blacks for Trump ou d'autres, ils visent à dire aux Noirs, de toute façon, c'est la même chose, Biden, il vous aime pas, donc ce n'est pas la peine de vous déranger, ce n'est pas la peine d'aller attendre 10 heures en Géorgie pour voter.
Et d'ailleurs, en 2016, on a appris récemment que piloté certainement depuis Saint-Pétersbourg, on avait des tas de faux comptes Facebook qui étaient là pour décourager l'électorat noir, ciblant, en disant « vous n'allez quand même pas voter pour Clinton, elle est contre la cause, ça ne sert à rien d'aller voter pour les démocrates, ils vous trahiront comme toujours. »
Et pourquoi les Russes, comme ça, poussent Trump à fond
Parce qu'ils sont engagés dans un grand effort pour délégitimiser les systèmes démocratiques occidentaux.
Nicole Bacharan, tout à l'heure, Thomas Tegueroff disait la question raciale, elle n'est pas au cœur, elle n'est pas la préoccupation numéro un quand on vote. On vote sur l'économie, on vote sur d'autres choses, etc. Mais on a l'impression, quand on voit les reportages et quand on voit toutes ces émeutes, quand même, que pendant ces quatre années de Trump, elle s'est, ça s'est dramatisé. Et on a peur de se dire, mais mon Dieu, est-ce qu'au lendemain de l'élection américaine, on ne va pas avoir... des émeutes raciales, alors peut-être que l'Amérique y est coutumière, mais
non, plus vous grave, avez raison, et l'Amérique en a connu, mais on n'en a pas connu d'aussi sérieuse, d'aussi prolongée depuis fort longtemps. C'est-à-dire, on avait des grandes émeutes raciales dans les années 60, avec des dizaines et des dizaines de morts. Il y en a eu au début des années 1990, et là, la protestation pour la justice raciale, avec, il faut le dire, aussi des violences de la part de gens qui sont classés vraiment à l'extrême gauche, mais quand même surtout d'autres classés à l'extrême droite, c'est très fort, c'est très présent. Et c'est vrai, Thomas avait totalement raison, je trouvais, de dire que l'identification raciale aux États-Unis, on ne la vit pas comme en France, par exemple. C'est le premier moment où vous choisissez, si j'ose dire, ce sont les questions du recensement. Et vous n'êtes pas obligé de remplir la case raciale. Et pour certains, c'est aussi une fierté. Barack Obama avait fait savoir qu'il avait coché la case noir.
Mais justement,
alors qu'il aurait pu dire, je suis moitié blanche, je suis métisse, ou je coche pas. Donc il y avait une affirmation d'une fierté.
On avait célébré la victoire de Barack Obama parce qu'on avait vu ça comme le dépassement de cette question raciale. Et on s'était totalement baigné d'illusions, en fait, absolument pas.
En grande partie, en tout cas. Et c'est vrai que pour moi, qui ai longtemps vécu dans le Sud, et d'une certaine manière, je l'ai vécu au quotidien, à travers l'école, à travers les églises, à travers les quartiers tellement séparés, où les métiers sont tellement séparés, des choses tellement anciennes, la cuisinière et la nounou, elle est noire, et à l'école, il y a un enfant noir qui a réussi à avoir une bourse, etc. Et on voit à quel point c'est ancré, j'ai envie de dire, dans la douleur de ce pays. Vraiment dans la douleur. Et Donald Trump a exacerbé ça. Il ne l'a pas créé, bien sûr que non. Mais il a joué là-dessus. Il a joué sur tous les ressorts. Et c'est vrai que si, comme il nous le dit, il perd l'élection et que dans ce cas-là, dira-t-il, c'est parce qu'elle a été truquée, que feront ses partisans ?
Alors, à cela s'ajoute le clivage religieux. Vous allez voir où je veux en venir, puisque parallèlement à l'élection, une autre campagne se joue, cette fois à Washington, devant le Sénat. Cette campagne, c'est celle que mène Amy Coney Barrett, choisie par Donald Trump pour occuper le 9e siège de la Cour suprême des États-Unis. Cette juge fédérale conservatrice, mère de 7 enfants et fervente catholique, a 2 jours pour convaincre les sénateurs qu'elle a le bon profil pour ce poste ô combien stratégique. Vous voyez ce sujet de Paul-Rémy Barjavel et Pascal Drapier.
Levez votre main droite. Levez-vous, s'il vous plaît. Jurez-vous solennellement devant la commission de dire la vérité, rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide.
Je le jure.
Amy Coney Barrett, sur le grill. Un grand oral devant une commission judiciaire du Sénat. Processus classique pour avaliser la nomination des juges à la Cour suprême. Sauf qu'à 3 semaines de l'élection, démocrates et républicains s'écharpent sur le moment choisi pour lancer la procédure.
Simplement, je crois que l'on ne devrait pas aller plus loin dans ce processus de nomination tant que l'élection n'est pas terminée et que le prochain président n'ait pris ses fonctions.
Il n'y a rien d'inconstitutionnel dans ce processus. Le siège est libre à cause de la perte tragique d'une femme formidable et nous allons la remplacer par une femme formidable.
Une femme formidable pour remplacer l'icône féministe et progressiste, la juge Ginsburg, pour les républicains. Une conservatrice de plus à la Cour suprême pour les démocrates, qui risque, selon eux, de mettre fin à l'Obamacare en pleine pandémie de Covid-19. Et il s'appuie sur d'anciens tweets de Donald Trump.
Il a aussi dit sur Twitter que ce serait une grande victoire si la Cour suprême mettait fin à la loi sur l'assurance santé. Je ne peux pas vraiment parler de ce que le président a dit sur Twitter. Il ne m'a rien dit à moi. Je ne suis pas en mission pour mettre fin à l'Obamacare.
Face aux 22 sénateurs, la juge a martelé son indépendance. Amy Coney Barrett, 48 ans, nommée pour la Cour suprême en grande pompe fin septembre par Donald Trump. Un choix pour galvaniser son électorat religieux conservateur sur lequel il s'est appuyé pour se faire élire il y a 4 ans.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de nommer l'une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême, la juge Amy Coney Barrett.
Donald Trump a donc choisi cette catholique fervente, mère de 7 enfants, pour ce poste à vie, très influent. Et c'est justement son profil qui inquiète une partie de l'Amérique. Devant le Sénat, depuis le début des auditions, opposants et partisans de la juge se font face. Une partie d'entre eux dénonce la magistrate connue pour ses convictions religieuses. Amy Coney Barrett a fait partie d'un groupe traditionnaliste appelé People of Praise, considéré par certains comme extrémiste. Et son opposition affichée à l'avortement pose question au Sénat. Réponse ambiguë et embarrassée de la magistrate.
Êtes-vous d'accord avec le juge Scalia, selon lequel la légalisation de l'avortement peut et ou devrait être annulée par la Cour suprême ? Je comprends tout à fait pourquoi vous posez cette question. Mais je ne peux pas m'engager à l'avance ou dire oui, j'y vais avec un programme, parce que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'ordre du jour.
La Cour suprême compte actuellement 5 juges conservateurs sur 9. En ajoutant Amy Coney Barrett, ils auront une solide majorité qui pourrait faire perdurer l'influence de Donald Trump au-delà de son passage à la Maison-Blanche. Un héritage que redoute la colistière de Joe Biden, Kamala Harris.
Tous les Américains doivent comprendre qu'avec cette nomination, l'égalité et la justice sont en jeu. Nos droits de vote sont en jeu. Les droits des employés sont en jeu. Les droits des consommateurs sont en jeu. Le droit pour un avortement légal et libre est en jeu.
Les auditions de la magistrate doivent se poursuivre jusqu'à jeudi. Le vote final du Sénat aura lieu fin octobre.
Alors, question téléspectateur. Les juges à la Cour suprême jugent-ils en fonction de leurs convictions politiques ou religieuses ? Question d'Éric à Paris. Alors, Anne Désine, vous qui avez consacré un Dalloz à la Cour suprême.
Oui, mais c'est toute la question de ces auditions qui sont un grand spectacle et on n'apprendra rien qu'on ne sache déjà sur la juge Barrett, qui par ailleurs est extrêmement brillante et qui sait se sortir des questions que tentent désespérément de faire semblant de poser les sénateurs démocrates, parce qu'en fait, c'est surréaliste. On parle très peu de la juge. Les démocrates parlent uniquement de la loi santé, et par moments, il y a des cours, comme à l'école, sur la loi santé, ou bien sur les procédures à la Cour suprême, ou les notions d'intérêt à agir, des choses extrêmement...
Anne Désine,
la question, c'est ça, mais il faut comprendre ça. En théorie... Bien sûr, et elle l'a répété 10 fois, moi j'applique le droit. Et elle a répété rule of law, la primauté du droit.
On a retrouvé cette phrase, vous savez très bien, qu'a prononcée la juge Barrett, enfin la future juge Barrett. Votre carrière juridique est un moyen pour un but, et ce but est la construction du royaume de Dieu.
Oui, alors ça, c'était avant.
Bah,
et
oui.
Là, en fait,
la question lui a été posée d'ailleurs en audition. Pouvez-vous mettre vos convictions religieuses de côté quand vous serez juge à la Cour suprême ?
Alors, elle a répété cette fois-ci, parce qu'en fait, elle a été auditionnée il y a 2-3 ans pour devenir juge de cour d'appel. Et c'est là qu'il y a eu ces énormes échanges sur le rôle de la religion. Et que là, elle s'est laissée aller et que la sénatrice Feinstein a dit des sottises sur le dogme, etc. Donc là, on ne parle plus du tout de religieux. C'est en fait... Mais l'idée, et ça le juge Scalia l'admet, on n'est pas censé faire entrer ses préférences personnelles. Mais c'est inévitable. Quand vous regardez la loi, quand vous regardez la Constitution, surtout la Constitution, elle est écrite en termes suffisamment larges et vagues que par définition, il y aura place pour vos préférences idéologiques. Donc, c'est bien de lui poser la question, mais on sait qu'elle va dire non, non, primauté du droit, non, non, je peux faire la différence. Et peut-être de bonne foi, mais quelque part, elle penchera plutôt d'un côté, alors qu'une ou un juge athée penchera plutôt de l'autre côté. Mais c'est inévitable.
Nicole Bacharan, ce pays, les États-Unis, on le regarde parfois avec notre logiciel français. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi 1905. Et est-ce qu'on peut dire que, du coup, le religieux, on sait très bien qu'aux États-Unis, le président dit « In God we trust », hein, nous avons confiance en Dieu. Est-ce que le religieux, la question religieuse s'impose de plus en plus ? Même Joe Biden revendique et affirme qu'il est un fervent catholique et que ce n'est pas le cas de Donald Trump, par exemple.
Oui, vous avez complètement raison de dire que la religion prend beaucoup plus de place dans l'espace public aux États-Unis qu'en France. Il n'y a pas de loi de 1905, mais il y a un deuxième amendement. Et le deuxième amendement à la Constitution dit que le gouvernement dans son ensemble, c'est-à-dire le président, le Congrès, la Cour suprême, ne doivent ni soutenir ni empêcher l'exercice d'une religion. Ça veut dire, normalement, qu'on ne doit pas donner de l'argent, des subventions, par exemple, à des associations religieuses, mais on ne peut pas empêcher les gens d'amener leur religion sur la place publique, pour autant que ça ne gêne pas la liberté de quelqu'un d'autre qui a une autre religion, qui n'en a pas, d'accord, et qui trouve que ça prend trop de place. Et quand il y a des tensions, par exemple, même simplement dans les entreprises, hein, sur le prosélytisme, sur la prière ou autre, soit ça se résout tranquillement, soit on va au tribunal. Donc il y a plus de place pour le religieux aux États-Unis, mais il existe quand même, normalement, une sphère religieuse, une sphère politique, qui ne doivent pas se mélanger tout le temps, même s'il y a le serment, même s'il y a les pièces, les billets et In God We Trust. Et c'est vrai que là, je rejoins ce que disait Anne et je terminerai là-dessus. Ces auditions sont un sinistre simulacre parce qu'elle va être confirmée, à moins qu'il se passe une chose extraordinaire, mais elle va être confirmée à 4 jours des élections, ce qui est proprement scandaleux. Et les deux, elle ne dit rien sur rien, elle est très habile là-dessus. Et les deux camps sont en campagne électorale, disant en gros chacun. Si vous votez pour mon camp démocrate, on trouvera des lois pour vous protéger sur le plan de la santé. Et de l'autre côté, en fait, la campagne électorale républicaine, à travers les auditions, c'est de dire les démocrates sont anti-chrétiens, anti-religieux.
Sauf que voilà. Joe Biden, c'est un catholique. D'ailleurs, ça pourrait faire un président catholique, ce qui n'est jamais arrivé depuis Kennedy, si je ne me trompe. Un catholique fervent, il va à la messe tous les dimanches. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vote catholique qu'on essaie de s'arracher, alors, pour le coup, là ?
Oui, alors c'est de moins en moins vrai, mais c'est vrai que le vote latino, c'est un vote qui est catholique. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut découper les gens en fonction de leur religion, de leur couleur de peau, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, John Kennedy, lui, avait un défi énorme qui était d'être un président catholique dans un pays très majoritairement protestant et qui était très protestant, c'est-à-dire où les pasteurs avaient un pouvoir politique extraordinaire au point que Kennedy est allé à Houston pour leur parler les yeux dans les yeux et leur dire vous n'allez pas entraver mon élection et ainsi vous allez montrer que vous êtes à la hauteur de la tolérance des pères fondateurs. Et hop, il a retourné la chose de manière assez géniale. Donc oui, évidemment, la question religieuse, elle est centrale. Sur la question de la Cour suprême, personne ne peut nier que les juges votent en leur âme et conscience. Et dans l'âme et conscience, il y a l'âme aussi. Hein. Et chacun va, en gros, il y a, j'en parle sous le contrôle d'Anne, mais il y a un équilibre à trouver entre la liberté et l'égalité. Voilà, certains vont aller davantage vers la liberté, d'autres davantage vers l'égalité, et c'est là que ça va se jouer. Mais il y a un grand débat aux États-Unis en ce moment, savoir le fameux packing. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de juges ? Parce que la Constitution, qui est très floue, elle est très floue aussi sur le nombre de juges. Elle ne dit pas qu'il y en a 9. Et donc, Biden, oui. Certains ont dit, Roosevelt avait tenté d'avoir...
Oui, mais packing, ce n'est pas que le juge, ce n'est pas que le nombre.
Beaucoup de questions, téléspectateurs. Oui. Je vous propose qu'on en prenne quelques-unes.
Allez,
à tout de suite. Bon, Biden et Trump sont vieux. Les électeurs, c'est une question de Bernard de Paris. Hein. Les électeurs vont-ils regarder plus attentivement les vice-présidents qui pourraient aussi gouverner ? Laurence Nardon, donc les vice-présidents, c'est...
C'est Mike Pence côté Trump. Il est là depuis 4 ans, on le connaît. Lui aussi, c'est un religieux fervent. Ah oui. Et puis de l'autre côté, il a été élevé catholique et maintenant il est passé dans une dénomination évangélique. Et de l'autre côté, Kamala Harris, sénatrice de Californie, le débat qu'il y a eu entre eux, débat télé la semaine dernière, a été regardé par beaucoup plus de monde que tous les anciens débats télé entre vice-présidents, parce que justement, on se dit, quel que soit le président élu, peut-être que le vice président ou la vice-présidente sera appelée à jouer un rôle définitif à un moment, et notamment Kamala Harris, parce qu'on a peut-être plus de doutes sur la santé de Biden.
Et puis il n'a que 77 ans, mais ce qui en ferait le plus vieux président des États-Unis.
Il a l'air un peu fatigué, et surtout, il s'est plus ou moins engagé à dire qu'il ne ferait qu'un seul mandat et qu'il préparait la suite. En tout cas, d'accord. Peut-être qu'on le lui fait ouais, dire maintenant. Ouais. Mais je voulais revenir sur les catholiques, mais je ne sais pas si j'ai
Si, je vous en prie.
Pour dire que, effectivement, il y a plein de catholiques cette fois-ci. Il y a Joe Biden, il y a Amy Comida Barrett, il y a 5 juges de la Cour suprême qui sont catholiques aujourd'hui.
Donc ça ferait 6.
Notamment Sotomayor, qui est une autre démocrate, enfin une autre progressiste à la Cour suprême. Mais à propos de Amy Coney Barrett, qu'on désigne comme une catholique très très conservatrice. C'est vrai, tout à fait. Mais elle a quand même dit à plusieurs reprises qu'elle était contre la peine de mort, ce qui est normal si on a su les principes du Vatican. Et elle a, dans une décision il y a plusieurs années, dit que si un juge catholique contre la peine de mort était appelé à décider, enfin à rendre un jugement sur une question touchant à la peine de mort, il ou elle devrait se récuser. Ce qui signale en creux qu'elle aurait des problèmes avec cette question.
D'accord.
Donc, il y a peut-être là un truc à surveiller, c'est peut-être pas le monstre qu'on décrit.
Autre question, alors, qui n'a rien à voir. Joe Biden est-il de taille à tenir tête aux Chinois ? Thomas Negaroff, c'est vrai, d'ailleurs, c'est l'une des critiques que fait Donald Trump en disant Joe Biden, il l'appelle Beijing Biden. Hein,
Beijing Biden.
Biden le Chinois, quoi.
Ouais, John Endormi, etc. Oui, ça fait partie des angles d'attaque. En fait, c'est ce qu'on a commencé l'émission, j'ai évoqué ça. L'idée de dire, voilà, l'adversaire, il est endormi, il sera le symbole d'une Amérique faible. Et la question de la Chine est devenue centrale. Elle l'est depuis. Moi, j'ai noté ça depuis les élections de mi-mandat de 2010. La Chine a émergé comme étant la puissance qui va nous écraser. C'est intéressant, dans les enquêtes d'opinion, quand vous demandez aux Américains « Est-ce que les Chinois sont plus riches que vous ?» Ils sont sûrs que oui. Alors que c'est faux, largement faux. Ouais. Mais ils sont persuadés que, par habitant, les Chinois sont plus puissants, plus riches, que leur armée est plus puissante. Non, mais ça dit à quel point la Chine est un épouvantail. Ce n'est pas la Suisse, c'est vraiment le pays épouvantail. Et dans ce contexte-là, bah, effectivement, Biden est devenu le symbole de la faiblesse. Parce que sous Barack Obama, les déficits se seraient accentués, alors qu'en fait, ils sont encore accentués depuis Biden, mais enfin, effectivement, il devient le symbole, Biden devient le symbole d'une Amérique faible face aux forts et donc face à la Chine. Biden président, c'est l'Amérique sinisée demain.
Mais en fait, il ne se débrouillerait pas si mal, parce que comme il reprendrait. Si, parce qu'a priori, il va se remettre avec les alliés, avec l'Europe, avec le Canada, etc. Donc il y aura une certaine.
Il retrouverait ses alliés traditionnels.
Voilà, pour mieux faire pression sur la Chine, sans passer par des
droits de l'homme.
Oui, voilà.
Trump a-t-il le droit de se servir de l'avion présidentiel pour la campagne ? C'est vrai qu'on l'a vu poser devant Air Force One, mais c'est un attribut qui est réservé au président, ça, et pas au candidat.
Il a le droit, à condition que son équipe de campagne rembourse les frais d'essence, etc. En revanche, ce qu'il a fait l'autre jour, un meeting à la Maison-Blanche, c'est un vrai problème. Et ça dit à quel point ce que François Clémenceau avait évoqué, la privatisation du pouvoir de l'État par Trump, on est dans un vrai symbole de privatisation du pouvoir. Quand vous faites, imaginez Emmanuel Macron qui fait un meeting à l'Élysée.
Et violation de toutes ces normes, parce qu'il y a des lois qui réglementent ça, et on n'est pas censé le faire.
Que pensent les Amérindiens de cette élection ? C'est vrai qu'on a parlé des minorités, on n'a pas parlé des Amérindiens. Ils sont nombreux d'ailleurs électoralement, ils pèsent et ils ont un vote très affirmé.
Ils sont peu nombreux. C'est vraiment les survivants d'un génocide. C'est très peu de monde. Et les questions qui les préoccupent sont les questions de santé, les questions d'emploi. Vous me direz que ça n'a rien d'original, mais il y a notamment très souvent les questions de licence de casino, des choses comme ça. S'ils votent plutôt démocrate, évidemment, mais c'est quand même un électorat qui pèse pas lourd. Et qui est très désenchanté. Donc, hélas, non.
Pardon, bien qu'il ne pèse pas lourd, il y a des manœuvres des Républicains pour les empêcher de voter. Dans un État qui m'échappe, les Indiens sont dans des réserves, donc comme adresse, ils ont des boîtes postales. Et une loi républicaine a dit que s'ils n'avaient pas une adresse avec une rue, ils ne pouvaient pas s'inscrire sur les listes électorales. Donc, vous voyez, ce voter suppression, cette campagne des Républicains pour empêcher de voter, ça touche aussi le peu d'Indiens.
Absolument.
Donald Trump a-t-il abandonné l'idée du mur avec le Mexique ? On n'en parle plus. Pourquoi ?
Donald Trump, c'est extraordinaire. C'est un candidat qui n'a pas de programme. il n'y a pas de programme du Parti républicain. Vous pouvez aller sur le site.
Oui, c'est vrai, ça peut le être programme, écrit, c'est lui. Rien.
Il n'y a pas de programme.
Non, parce donc, qu'ils ont décidé de reprendre celui de 2016.
Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Oui. Et donc ça, ouais, voilà. Donc il n'y a pas de programme. Donc le mur, il n'y a pas de programme, donc il n'y a pas de mur. Donc tout ça étant. Mais de toute façon, mais personne n'est dupe, en fait. Tout le monde sait très bien que Donald Trump, c'est une énergie, c'est une marque. C'est une force, c'est un symbole, etc. C'est un symbole. C'est aussi une forme de résistance à la globalisation, c'est vrai aussi. Mais le mur... Bon.
Qui murmure à l'oreille de Donald Trump ?
Pas grand
murmure.
Monde.
Pour l'instinct.
Ça pas grand monde, oui. Parce que vraiment, il n'écoute que les gens qui vont dans son sens. Ouais. Et par exemple, quand il était à l'hôpital, les trois jours, ça ne durait que trois jours, mais on sait que sa famille était divisée, que son fils Donald Jr. trouvait que son père faisait n'importe quoi. Ivanka et Jared, donc fille et Jean, disaient qu'il était merveilleux et formidable. Il écoute les gens qui lui disent « vous êtes merveilleux et formidable ».
Vous avez raison, hein, son instinct.
Et ben voilà, c'est sûr. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion ce soir à 22h30. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.